Bonjour, dans cette vidéo, nous parlerons des évolutions des pratiques d'aménagement et d'urbanisme à l'ère de l'information. Je vous propose donc un parcours en trois temps. Dans un premier temps, nous parlerons des débuts de l'urbanisme et de la façon dont les premiers urbanistes ont pris en compte une certaine connaissance empirique de la ville à aménager. Dans un second temps, nous parlerons des débuts de l'informatique et des débuts de l'information quantifiée prise en compte dans l'aménagement. Et enfin, nous nous intéresserons à la période plus récente des Big Data et de la Smart City. Le plan d'extension de la ville de Barcelone est souvent montré comme la date de naissance de l'urbanisme contemporain. Ildefons Cerdà, qui est le concepteur de ce plan d'extension, a pris en compte une connaissance empirique qui s'appuyait sur des études des conditions de vie dans la ville ancienne de Barcelone et en particulier des conditions de logement. C'est donc un exemple d'aménagement qui s'appuie sur une connaissance empirique d'un certain type. Du côté de l'aménagement des villes par le mouvement de l'architecture moderne, Le Corbusier écrit par exemple « Le nombre des rues actuelles doit être diminué des deux tiers ». Ou bien, nous emprunterons la traversée spéciale pour véhicules rapides, passerelle surélevée de 40 mètres de large. Alors, dans ces deux exemples, Le Corbusier propose une calibration précise de certaines infrastructures, alors qu'il ne dispose pas d'une connaissance quantitative précise des usages de cette voirie. Et donc, c'est ça qui va changer à partir des années 50, avec le développement de deux nouveaux domaines, l'informatique d'un côté et la recherche opérationnelle de l'autre, qui constitue un ensemble de méthodes pour optimiser des processus industriels en particulier. Et donc c'est à partir de cette époque-là que l'idée va surgir de planifier les villes sur la base d'une information quantitative sur les usages. Sur cette image, on voit un des premiers ordinateurs qui a été utilisé pour une planification des transports en particulier. C'est donc l'IBM 704 qui a été utilisé dans les années 50 pour les premiers plans de transport de Chicago et de Détroit en particulier. Et donc ces ordinateurs ont été utilisés pour mettre en place des méthodes de calcul basées sur des données quantifiées sur la mobilité des individus. Alors sur ce graphique, on a l'exemple français de l'application de telles méthodes. Alors sur ce graphique, en abscisse, on voit la différence de temps pour un trajet donné entre un trajet en autobus et un trajet en métro, et en ordonnée, le pourcentage d'usagers qui choisissent l'autobus. Donc ce qu'on peut voir, c'est que du côté gauche, la courbe tend vers 100%, c'est-à-dire que quand l'autobus est bien plus rapide que le métro, presque tous les utilisateurs choisissent l'autobus. De l'autre côté, quand le métro est bien plus rapide que l'autobus, presque tous les usagers prennent le métro. Mais ici, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que c'est le seuil des 50% qui ne se situe pas à une différence de temps de zéro. C'est-à-dire que même quand le métro est un peu plus rapide que l'autobus, les usagers préfèrent quand même utiliser l'autobus. Et donc c'est sur ce type de calcul que la planification transport s'est appuyée à partir des années 50 et 60. Donc elle s'est appuyée sur une connaissance empirique des usages. Les méthodes américaines utilisées en transport se sont diffusées un peu partout, en Europe en particulier. Et derrière ces méthodes, il y a des principes qu'il faut souligner. Le premier principe, c'est que la ville est un système productif à optimiser. C'est la façon dont les ingénieurs américains conçoivent la ville. Et le deuxième élément, c'est que les dysfonctionnements urbains sont considérés comme de simples problèmes techniques. Donc c'est une approche complètement ingénieriale de l'aménagement urbain. Et cette conception va s'implanter en France à travers trois grands piliers, que sont la comptabilité nationale, dans un premier temps, la comptabilité nationale qui a donc été mise en place après la Seconde Guerre mondiale et qui produit les premiers indicateurs quantifiés qui servent à la planification économique. Le deuxième pilier, c'est le commissariat général au plan, qui est donc l'organisme qui va mettre en place la planification en France. Et le troisième élément, c'est le corps des ponts et chaussées, donc l'un des grands corps d'État qui sera l'exécutant de cette planification économique appliquée à la ville et au transport en particulier. Alors, dans ce cadre, le problème posé est très simple. Les villes ont un fonctionnement sous-optimal qui est dû à un défaut d'organisation, et ce défaut d'organisation lui-même est dû à un défaut d'information. Donc la solution à ce problème simple est tout aussi simple. Il faut traiter beaucoup d'informations pour obtenir une meilleure organisation et donc une optimisation de la ville qui est considérée comme un système à optimiser. Voilà ce qui est en fond dans cette transformation des pratiques d'aménagement et d'urbanisme à partir des années 50 et 60. Et donc c'est quelque chose qu'on va retrouver à une période plus récente, la période des données, des big data et de la smart city. Alors je vais commencer par poser quelques éléments. Les big data en contexte urbain, ce sont principalement des données passives, comme par exemple des traces laissées par des appels sur des dispositifs de téléphonie mobile. Ce sont aussi des données créées par des capteurs, en particulier des données de pollution atmosphérique. Et ce sont aussi des données de billetterie électronique, produites par exemple par le Pass Navigo en Île-de-France ou l'Oyster Card dans la région de Londres. Et donc, tous ces dispositifs produisent des traces que l'on peut analyser de façon quantitative pour mieux planifier certains aspects et certains services urbains. La grande différence avec l'époque précédente, c'est qu'à l'époque de l'ingénierie des années 60, les données sont créées exprès pour la planification, alors qu'à l'ère des big data, ces données existent déjà, indépendamment des questions que les aménageurs vont pouvoir leur poser. Donc, toute cette information devrait permettre, dans le cadre qu'on a posé auparavant, de mieux aménager les villes. Alors, le terme important ici, c'est le terme de Smart City. Et la première question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'il s'agit réellement d'un concept scientifique? Et la réponse est non. La Smart City est avant tout une prestation de services offerte par des entreprises de TIC à des collectivités territoriales qui appliquent le schéma qu'on a montré juste avant, c'est-à-dire l'idée que avec une plus grande quantité d'informations mieux traitées, ben on pourra mieux organiser et mieux aménager les villes. Et donc il y a de grandes entreprises de TIC, comme par exemple IBM, qui se placent sur ce créneau et qui proposent des services aux collectivités pour mieux aménager les villes. Ce schéma information, organisation, optimisation est un peu naïf. Et quand on s'intéresse à l'analyse des politiques publiques, on se rend compte qu'en fait la décision publique est bien plus compliquée que ça. La définition donnée par Pierre Muller, la décision est un processus insaisissable au cours duquel des acteurs de nature différente vont contribuer à une sorte de décantation progressive des choix. En d'autres termes, il n'y a pas vraiment de décision, il n'y a rien d'autre qu'un ensemble d'acteurs qui finalement aboutissent à quelque chose qui ressemble à une décision. Et dans ce cadre-là, évidemment, mieux traiter de plus grandes quantités d'informations n'aboutit pas nécessairement à une meilleure décision publique. Pour conclure, qu'est-ce qui est intelligent dans la Smart City? Par rapport aux époques antérieures, on peut dire que la rationalité des premières périodes de l'urbanisme était essentiellement une rationalité théorique qui existait sur le papier. Alors qu'à l'ère de l'information, et en particulier à l'ère actuelle, on peut prendre en compte dans l'aménagement une grande quantité d'informations sur les usages et les usagers de la ville.